Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La Bible révèle qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Mais comment devons-nous comprendre l'unicité de Dieu? Nous avons vu que Dieu est une famille d'êtres divins. Nous avons vu également que Dieu est esprit. De nombreuses traductions de la Bible désignent le Père comme une personne ou un être. L'apôtre Paul a écrit « Le Fils, Christ, est le reflet de sa gloire, celle du Père, et l'empreinte de sa personne, la personne du Père. » Il est clair que le Père est une personne ou un être composé d'esprit, de même que le Fils. Mais nulle part dans la Bible, vous ne lirez que le Saint-Esprit est une personne divine. La Bible révèle qu'il est la puissance, l'influence, la nature, le caractère, la pensée, la vie de Dieu. La doctrine de la Trinité ne figure tout simplement pas dans la Bible. Si vous voulez recevoir notre étude gratuite sur le Saint-Esprit, il vous suffit de nous la demander et nous vous l'enverrons gratuitement. L'unicité de Dieu est clairement enseignée dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul a écrit « Il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. » Il ajoute « Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » L'apôtre Jacques déclare « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » L'Ancien Testament enseigne qu'il n'existe qu'un seul Dieu. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Le roi David déclara « Toi seul, tu es Dieu. » Après avoir reçu le message du roi d'Assyrie qui voulait la reddition de Jérusalem, Ézéchias, roi de Juda, pria en ces termes « Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. » Il n'y a qu'un seul Dieu, toutefois la Bible n'enseigne pas que Dieu n'est qu'une personne, un seul être ou un seul personnage. Dieu est une famille, et la Bible révèle sans équivoque que la famille divine régit l'univers et qu'elle accueillera beaucoup de fils et de filles. Elle s'agrandira. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais ce Dieu unique inclura un jour beaucoup de personnes, tout comme une famille humaine se compose toujours de plusieurs personnes. Le livre de la Genèse raconte « Puis Dieu, en hébreu Elohim, dit « Faisons l'homme à notre image », de l'hébreu Tselem, selon notre ressemblance, de l'hébreu Demuit. Remarquez que Dieu ne dit pas « Je vais faire l'homme à mon image ». Le mot « Elohim » n'exprime pas seulement un pluriel de majesté. Ce mot est collectif et décrit la pluralité d'êtres dans la famille Dieu. D'autres versets bibliques dévoilent que Dieu n'est pas composé d'une seule personne, mais de deux personnes, deux êtres, deux personnages. L'Église est un corps, mais elle a beaucoup de membres. De même, Dieu est un Dieu composé de plus d'un être. Dieu, en hébreu Elohim, est un nom collectif, comme le nom famille, église, société, armée, groupe ou ensemble. Avez-vous déjà réfléchi à la signification de la création de l'homme à l'image de Dieu? L'homme ressemble-t-il vraiment à Dieu? Si vous prenez la peine de vérifier le sens des termes hébreux traduits par « image » et « ressemblance » utilisés dans Genèse 1:26, vous comprendrez alors qu'Adam fut créé à l'image de son Créateur, en lui ressemblant. La version Louis II dit exactement « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Plus loin, dans le livre de la Genèse, nous lisons « Adam engendra un fils à sa ressemblance, selon son image ». Nous retrouvons ici les mêmes mots hébreux que dans Genèse 1:26. Le fils d'Adam ressemblait à son père. Il était à l'image et à la ressemblance de son père, tout comme Adam ressemblait à son créateur. Il n'est donc pas étonnant que lorsque Dieu décida de se montrer, il l'a toujours fait sous forme et apparence humaine. Pas une seule fois, il ne s'est manifesté sous la forme d'une autre créature. Lisons le récit d'une de ses apparitions devant Abraham au chêne de Mamré. L'Éternel, Yahvé, lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Il en fut de même pour Jacob qui lutta avec celui qui devint le Christ. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. » De l'hébreu « Elohim ». Moïse reçut la permission d'apercevoir Dieu dans sa gloire. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel, Yahvé, dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Quand ma gloire passera, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Dieu dit bien qu'il a une face et un dos. Pouvons-nous savoir à quoi ressemble Dieu ? La Bible révèle à maintes reprises que Dieu a une tête, un corps, des bras, des jambes et des pieds. Pourquoi mettre en doute ces déclarations limpides de la Bible? Cela équivaut à rejeter une partie des Écritures, à rejeter la parole de Dieu et le Dieu qui a inspiré cette parole. Abraham et Moïse ne furent pas les seuls à voir Dieu. En effet, la Bible relate que Josué, successeur de Moïse, eut ce privilège également. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur, Adonai, dit à son serviteur ?» Et le chef, le prince de l'armée de l'Éternel, dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Le prophète Ézéchiel eut des visions dans lesquelles il aperçut une image de la gloire de Dieu. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme, de l'hébreu Adam, placé dessus en haut. C'était une image de la gloire de l'Éternel, de Yahvé. À cette vue, je tombai sur ma face. Nous avons examiné quelques passages des Écritures qui prouvent que le Dieu Très-Haut façonna réellement l'homme à sa propre image, selon sa ressemblance. Mais Dieu décida également que la ressemblance entre l'homme et lui ne devait pas s'arrêter là. Elle devait inclure son caractère par le processus de la conversion spirituelle. Celui qui vaincra Satan, le péché, ce monde mauvais et les faiblesses de sa nature humaine, héritera ces choses. Pour vaincre tout cela, il faut se former un caractère avec l'aide de Dieu. Les écrits du Nouveau Testament révèlent que la seconde personne de la divinité renonça au confort et à la gloire qu'elle avait au ciel pour devenir un être humain mortel, venant sur terre en tant que sauveur de l'humanité, en tant qu'Emmanuel, qui signifie « Dieu avec nous ». Ce Dieu avait abandonné complètement sa divinité. C'est ainsi qu'il vécut parmi les hommes pendant plus de 33 ans. Certains enseignent erronément que le Père et le Fils ne sont que des personnalités différentes, différentes facettes ou manifestations d'un même personnage divin. Mais la Bible n'enseigne pas cela. Lorsqu'il était sur terre, le Christ parlait de son Père au ciel. Il disait « Moi et le Père, nous sommes un ». Jésus déclara « Le Père est plus grand que moi ». Comment le Christ et son Père peuvent-ils être un alors que le Père est plus grand que Christ? La réponse est très simple. Le Père et son Fils sont un en esprit, un en pensée, un dans leur raisonnement, dans leurs souhaits. Ils sont en parfait accord, en parfaite harmonie. Ils ne sont jamais en désaccord. Mais ça ne signifie pas que le Père et le Christ sont une même personne ou qu'il s'agit de deux personnalités différentes d'un même personnage. La Bible enseigne que le Père et le Fils sont deux personnes, deux êtres, deux personnages séparés et distincts. Néanmoins, ils sont toujours en accord parfait dans leur façon de penser. Le Nouveau, tout comme l'Ancien Testament, utilise le mot « Dieu » pour désigner les différents membres de la famille divine. Lorsque le Christ était sur terre, il parlait toujours de son Père comme de quelqu'un qui était au ciel. En outre, Jésus déclara « Le Seigneur, du grec « Kyrios », le Père, a dit à Monseigneur, du grec Kyrios, ici le Fils, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Jésus cite une prophétie du roi David. « Parole de l'Éternel, Yahvé le Père, à mon Seigneur, Adonai le Fils, assieds-toi à ma droite. » Dans cette prophétie, c'est de toute évidence le Père qui parle à son Fils après sa résurrection. Cette même relation de Père à Fils est mentionnée dans le livre de Daniel, où le prophète décrit une vision qui traite du retour du Christ sur la terre. « Et l'Ancien des jours, le Père, s'assit. » Et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'agit du Christ. Il s'avança vers l'Ancien des jours, le Père. On lui donna, au Christ, la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Comment le Christ aurait-il pu s'approcher de lui-même? Le livre des Actes raconte qu'au moment où Étienne répondait aux membres du Sanhédrin, ceux-ci grinçaient des dents contre lui, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Christ était-il debout à sa propre droite, comme il aurait dû l'être si lui et le Père ne sont qu'une seule et même personne? La vérité est que le Père et le Fils sont deux personnes séparées et distinctes dans la famille divine. Ils ont coexisté de toute éternité. Ils peuvent se déplacer indépendamment l'un de l'autre. Ils ne sont pas omniprésents. Toutefois, leur esprit, le Saint-Esprit, est omniprésent. Même après sa résurrection, le Christ fut encore séparé de son Père. Christ était encore sur terre, tandis que son Père était toujours au ciel. Après sa résurrection, le Christ avait toujours la forme et l'aspect d'un homme. Voilà pourquoi Marie l'a confondu avec le jardinier. Lorsqu'elle le reconnut, il lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Dis-leur que je monte vers mon Père. » La Bible enseigne que, bien qu'il n'existe qu'un Dieu, Dieu est une famille constituée de deux personnages divins, le Père et son Fils. Elle enseigne également que le processus du salut est le moyen par lequel Dieu le Père et le Christ sont en train de reproduire leur espèce à travers tout le Nouveau Testament. La parole de Dieu révèle que notre Père céleste engendre des fils et des filles qui naîtront un jour dans la famille divine, devenant ainsi ses enfants, membres à jamais de cette grandiose famille de Dieu. Cela se fera lorsque sonnera la septième trompette. C'est alors que les chrétiens, ceux qui se seront soumis à Dieu et qui auront accepté de vivre comme Dieu le demande dans la Bible, revêtiront l'immortalité. Ce sera lors de la résurrection des justes. Le but ultime de l'humanité est de connaître la vérité pour faire un choix, prendre ou non du fruit de l'arbre de la vie. Ceux qui refuseront le bon choix feront l'expérience de la seconde mort. Voilà le grand plan de Dieu pour l'humanité. Il est absolument contraire aux Écritures de prétendre que Dieu est un seul être ou un seul personnage. Comme certains l'affirment, nous en trouvons la preuve dans les passages suivants. Jésus fut engendré en tant qu'homme physique par son Père. S'engendra-t-il lui-même? Quand il priait son Père, s'adressait-il à lui-même? Quand Jésus déclara que son Père était plus grand que lui, voulait-il dire qu'il n'était plus grand que lui-même? Quand Jésus s'écria « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » sous-entendait-il qu'il s'était abandonné lui-même? Quand le Père a dit à son Fils « Assieds-toi à ma droite », cela voulait-il dire que Jésus était assis à sa propre droite?